Radio Okapi. Grande interview.
Le 25 mai 2018, l'Union africaine célèbre ses 55 ans d'existence. Quel bilan dressé du travail de cette institution continentale sur les plans politiques, économiques et sécuritaires? Pour répondre à ces questions, Grande Interview reçoit Abdou Abari, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en RDC. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Monsieur l'ambassadeur Abdou Abari, bonjour.
Bonjour.
À travers tout le continent, la journée de l'Afrique commémore la création le 25 mai 1963 à Addis Abeba, en Éthiopie, de l'Organisation de l'Unité Africaine, OUA d'abord, à laquelle a succédé l'Union Africaine en 2002. Monsieur l'ambassadeur, sous quel signe placez-vous la commémoration des 55 ans de l'Union Africaine?
Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue ici dans les bureaux de l'Union Africaine. Et puis vous dire toute la joie que nous avons de collaborer avec Radio Okapi. S'agissant du bref rappel historique que vous avez fait, si l'on prend de façon très ramassée le bilan de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA qui a été créée le 25 mai 1963, c'est d'abord les problèmes de décolonisation, la question de la lutte contre le système abject de l'apartheid à l'époque. Donc c'était véritablement une organisation qui a été créée dans le contexte des luttes d'indépendance et d'émancipation des peuples africains. Donc l'OUA a vécu et elle a eu, je pense, dans le domaine pour lequel elle a été créée, un bilan plus qu'élogieux. Maintenant, en 2002, devant les autres priorités du continent, notamment le constat qui a été fait de ce que vous ne pouvez pas bénéficier de l'indépendance politique si vous n'avez pas une indépendance économique. Donc l'Union africaine a été créée en 2002 pour remplacer l'Organisation de l'Unité africaine et parachever sur un certain nombre de domaines la question de l'intégration africaine, la question de l'émancipation économique des pays et des peuples africains. Et on peut dire que 55 ans après, malgré quelques imperfections de ci, de là, on reviendra sur les insuffisances à un moment de cet entretien. Je pense qu'on a un bilan plutôt globalement positif de la question de la femme, la question de la jeunesse. Par exemple, l'année dernière, c'était le dividende démographique que nous avions célébré. Cette année, cet anniversaire va être célébré sous le thème de vaincre la corruption, option viable pour la transformation de l'Afrique. C'est un autre fléau auquel l'Afrique est confrontée. Vous ne pouvez pas parler d'émancipation économique, de développement économique tout court d'un pays lorsque vous avez ce phénomène pernicieux de la corruption qui prend possession de l'ensemble du système de nos États. Donc, fort heureusement, au 30e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État africains, dans leur sagesse, ont décidé de mettre la lumière sur la problématique de la lutte contre la corruption en désignant un des chefs d'État dont on connaît le travail exemplaire qu'il fait dans son pays, la République fédérale du Nigeria. Donc, c'est le président Muhammadu Buhari qui a été choisi par ses pairs pour être champion en ce qui concerne cette thématique.
Alors, en parlant de la corruption, monsieur l'ambassadeur, on sait qu'en Afrique, la corruption décriée en commençant au sommet par les chefs d'État eux-mêmes et jusqu'à la base, l'impunité règne. Et comment l'Union africaine pense, à travers ce thème, concrétiser cette lutte contre la corruption?
Vous savez, tout part de l'agenda 2063, où on a parlé donc de cette Afrique que nous voulons. Donc la décision des chefs d'État, c'est l'expression de leur volonté politique de combattre la corruption dont les effets néfastes, comme vous le savez, sur les économies des pays africains, ces effets-là ne sont plus à démontrer. Donc vous savez également que avant même que ce thème n'ait été choisi, beaucoup de pays africains, sinon quelques-uns, au moins tous les pays africains, ont mis des structures nationales de lutte contre la corruption. Et je suis heureux de citer la République démocratique du Congo comme faisant partie des pays qui ont décidé de prendre à bras le corps ce problème de la corruption. Je crois savoir qu'une structure est créée autour d'un conseiller du président de la République qui est en train de lutter avec quelques résultats, comme nous l'avons vu il y a quelques mois de cela dans ce domaine. Donc pour l'Union africaine, la lutte contre la corruption, le premier élément, c'est d'abord l'expression de la volonté politique. Le deuxième élément que l'Union africaine va faire, c'est de mettre en place des dispositifs nationaux, donc comme je l'ai dit, comme en RDC. Et en troisième lieu, l'Union africaine va être un système de surveillance au niveau continental pour voir les pays qui font des efforts, ceux qui ne le font pas, mais pas en termes de mettre à nu ou de singulariser un pays, mais de veiller à ce que cette structure de surveillance puisse assister les États dans leurs efforts de lutte contre la corruption. Voilà un tout petit peu de façon ramassée le dispositif continental que l'Union africaine veut mettre en place pour appuyer la thématique de cette année.
Monsieur l'ambassadeur, vous parlez de la RDC où le président de la République a nommé un conseil spécial chargé de lutte contre la corruption, la fraude et autres aspects. Mais ce conseiller, il se plaint beaucoup du manque des moyens. Il se dit quelquefois ne pas être suffisamment soutenu par le pouvoir politique. Est-ce que l'Union africaine, en se basant sur ce modèle, ne veut pas une chose et son contraire à la fois?
Disons que l'Union africaine, comme je l'ai dit, en exprimant au plus haut niveau le désir des chefs d'État africains de combattre et d'éradiquer le problème de la corruption, a déjà fait un grand pas. Maintenant, ce que vous dites par rapport au pays, chaque pays par rapport à ses spécificités, par rapport à ses moyens, par rapport aux priorités qui sont données, peuvent avoir un système très élaboré, très fonctionnel, avec un conseiller spécial, mais également et très certainement une administration qui le soutient, mais également une coordination avec un ensemble de corps, que ce soit les magistrats, que ce soit en tout cas le système judiciaire du pays, que ce soit les forces de défense et de sécurité. Je pense qu'on doit pouvoir établir des synergies. Il faut pouvoir lutter contre l'impunité. Il y a beaucoup d'États africains qui arrivent à travers leurs systèmes nationaux à récolter beaucoup de fonds qui ont été détournés par des administrateurs indélicats, lesquels fonds ont été reversés au trésor public et réutilisés pour le bénéfice du plus grand nombre. Donc je pense que le simple fait que le président de la République démocratique du Congo ait désigné au sein de son cabinet un conseiller spécial est en soi un acte qu'il faut saluer. Maintenant, la question des moyens, c'est une question à laquelle font face beaucoup d'administrations, non pas seulement ici en RDC, mais dans la plupart de nos États. Je pense que lorsque la volonté politique est exprimée, tout le reste devra pouvoir suivre. Et j'espère que la structure qui a été créée ici en République démocratique du Congo connaîtra son essor avec la résolution des écueils auxquels elle est aujourd'hui confrontée.
Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit l'ambassadeur Abdou Abari, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en RDC. Sur le plan politique, monsieur l'ambassadeur, l'Afrique connaît beaucoup de foyers de tension. Quel est l'apport de l'Union africaine à travers toutes ces crises politiques où les processus électoraux ne sont pas respectés? Il y a des menaces de changement de mandat dans certains pays, des mandats élastiques, des chefs d'État qui ne veulent pas quitter. On ne sent pas beaucoup l'Union africaine. Certains spécialistes disent que soit l'Union africaine est à faune, soit elle ne s'exprime pas suffisamment avec beaucoup d'énergie. On ne la sent pas.
Mais ça, effectivement, je dois à la vérité de reconnaître que c'est une critique qui nous est faite, mais j'estime qu'elle n'est pas fondée. Certes, les développements en matière de gouvernance, en matière d'expérience politique ne sont pas les mêmes d'une communauté économique régionale ou d'une région africaine à une autre. Vous avez des régions africaines où des progrès très louables ont été accomplis en matière de gouvernance. La charte africaine de la gouvernance et des élections est là. Nous nous attelons au niveau du département affaires politiques de l'Union africaine à suivre les efforts qui sont faits par les pays. Quand vous prenez une région comme celle de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en termes d'intégration, en termes d'avancée démocratique, et du reste, pas que la CEDEAO, aujourd'hui, sur l'ensemble de notre continent, vous avez plus d'élections que de coups d'État, par exemple. Ça, on ne s'en rend pas compte.
Mais quel type d'élection, monsieur l'ambassadeur? Des élections souvent truquées où les opposants sont empêchés de participer au même titre que ceux qui sont au pouvoir?
Ceux qui, aujourd'hui, se considèrent comme les champions de la démocratie ont commencé par des pas. Ils ont commencé ailleurs, quelque part. Et donc, chacun à chacun selon son rythme et selon sa capacité à se mouvoir très rapidement vers cet objectif. Quand vous donnez des cas d'élections qui auraient connu des difficultés, mais vous avez des élections qui se sont passées sans aucune difficulté, vous avez ça, vous avez des élections au Nigeria, vous avez l'exemple du Ghana, vous avez récemment l'exemple de la Sierra Leone, vous avez l'exemple du Libéria, vous avez l'exemple de la Gambie, vous avez l'exemple du Sénégal, vous avez l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais malheureusement pour nous, quand il s'agit de l'Afrique, on nous donne assez souvent au niveau de la presse, et c'est bien regrettable, que ce qui n'a pas marché.
Comme c'est le cas au Burundi, en RDC et dans d'autres pays où le processus électoral, la démocratie, les droits de l'homme sont en souffrance.
Mais ça, je ne suis pas d'accord avec l'analyse que vous faites, en particulier en ce qui concerne la République démocratique du Congo, le pays qui nous accueille. Il y a certes des difficultés, mais je pense qu'entre 2016 et aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. En ce qui concerne le processus démocratique, du dialogue de la Cité de l'Union africaine que l'Union africaine a dirigé, à l'accord de la Saint-Sylvestre qui a été conduit d'une main de maître par la CENCO, je pense que quelque chose est fait. Et il ne faut pas le négliger. La République démocratique du Congo n'a jamais été aussi près d'organiser des élections libres, crédibles et démocratiques qu'en ce moment. Depuis la publication du calendrier électoral le 5 novembre 2017, à aujourd'hui, tout ce qui a été prévu dans ce calendrier électoral est en train d'être respecté. Certes, avec plus ou moins de bonheur, la question des droits de l'homme, elle est suivie non seulement au plan national, mais elle est suivie également par nos amis du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Récemment, le gouvernement de la République a décidé de mettre sur pied une commission d'enquête sur les événements qui se sont déroulés en décembre, en février et en mars. Les trois marches qui ont été organisées par le comité laïque de coordination, il y a eu des victimes. L'État a reconnu qu'il y a ces victimes. Les blessés ont été amenés dans des hôpitaux où ils sont soignés aux frais de l'État congolais. Les familles qui malheureusement ont eu à souffrir de la perte de certains de leurs membres, l'État congolais a supporté les frais de funérailles. Nous avons vu également sur le front des libertés démocratiques, par exemple, un parti important de l'opposition comme l'UDPS qui a pu organiser sans aucune difficulté son congrès. On a vu l'UDPS organiser un meeting ici à Kinshasa, ça s'est très bien passé. Donc nous pensons que les plus longs voyages commencent par des petits pas. Ce que je peux dire ici, si le tableau n'est pas aussi idyllique qu'on l'aurait souhaité, il ne faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Des pas importants, positifs sont en train d'être faits. Et moi, je suis de ceux, l'Union africaine avec moi, qui pense qu'il vaut mieux considérer le verre comme à moitié plein plutôt que de le considérer comme à moitié vide. Et nous allons poursuivre, nous, Union africaine, en collaboration avec le système des Nations Unies et les autres partenaires internationaux qui sont sur place, à accompagner cette dynamique positive qui est enclenchée. Il est vrai que cette dynamique est perfectible et nous allons travailler avec les autorités dont s'est doté ce pays pour voir ces avancées se poursuivre de façon à ce que le 23 décembre, nous ayons véritablement des élections qui soient libres, crédibles et démocratiques dans ce grand pays.
Ambassadeur Abdou Abari, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en RDC. Sur le plan sécuritaire, l'Afrique connaît aussi beaucoup de problèmes, notamment en Libye, j'ai parlé du Mali, de la République centrafricaine, de la RDC et d'autres pays. Quels sont les efforts que fait l'Union africaine pour résoudre tant soit peu ces problèmes? On a vu par exemple avec l'implication de la France, en plus de la mission des Nations Unies au Mali et dans la région, mais il y a aussi le G5 Sahel par exemple. Quels sont les autres efforts que l'Union africaine peut faire par exemple en ce qui concerne la sécurité en RDC?
La problématique de la sécurité est devenue une grande préoccupation de la communauté internationale dans son ensemble.
Avec la montée du terrorisme.
La montée du terrorisme, l'exacerbation des intolérances, qu'il s'agisse des intolérances religieuses, des intolérances liées à la paupérisation de la population, notamment de la jeunesse, les problèmes de la mauvaise répartition des revenus, les problèmes interethniques. Tout ça a créé une nouvelle dimension en matière d'insécurité. Le terrorisme avance à visage fermé. C'est ce qu'on appelle des guerres asymétriques. Les États-Unis en souffrent, l'Europe en souffre, l'Afrique fort malheureusement est en train d'en souffrir. Et donc ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'Union africaine, d'abord nous avons un conseil paix et sécurité qui a été créé, qui comprend 15 États membres. Et donc, ces 15 États membres sont les principaux défenseurs protecteurs de la paix et de la sécurité sur le continent. Un fonds a été créé sur la question de la promotion de la paix, de la lutte contre les intolérances, les différentes formes d'intolérance que je vous ai citées. Donc, ce fonds-là est doté aujourd'hui d'environ 30 à 40 millions de dollars. Mais il faut reconnaître que l'Afrique seule ne peut pas supporter le poids de la lutte contre le terrorisme. C'est pour ça que, à travers un certain nombre de mécanismes, nous cherchons à ce que les opérations de lutte contre le terrorisme ou de maintien de la paix qui se déroulent en Afrique soient mises sous le chapeau du chapitre 7 du Conseil de sécurité des Nations Unies, de façon à ce que ces opérations-là et ces différentes luttes puissent bénéficier du financement des Nations Unies. Vous avez cité les problèmes qui se sont passés en Libye, qui se passent aujourd'hui dans le bassin du lac Tchad. Dans une certaine mesure, ce terrorisme rampant a pris pied en République centrafricaine. Certaines des violences qu'on voit ici en République démocratique du Congo ne sont pas exemptes d'avoir un aspect ou une dimension de terrorisme. Donc, tout cela, l'Union africaine est en train de prendre ces problèmes, même si, il faut le reconnaître, on n'a pas été à la base nous-mêmes de tous ces problèmes. Par exemple, la crise en Libye a été la cause principale de l'effondrement du système sécuritaire au Mali et de la résurgence et de l'aggravation du phénomène du terrorisme. Donc nous sommes, à travers des initiatives, par exemple autour de la gestion du bassin du lac Tchad, une force, la MNJTF, une force multinationale qui regroupe les pays qui sont concernés, à savoir la République fédérale du Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, plus le Bénin, ont mutualisé leurs efforts pour mettre sur pied une force de 7500 hommes qui est en train de combattre avec beaucoup de succès la nébuleuse Boko Haram, qui, si aujourd'hui peut mener encore des actions de terrorisme résiduel, n'a plus un sanctuaire comme cela était le cas il y a 2 années.
Pourquoi, monsieur l'ambassadeur, l'Union africaine n'encouragerait pas, par exemple, les pays de la sous-région des Grands Lacs pour mettre sur pied une telle force?
Cette proposition a été faite lors de la réunion qui s'est tenue à Brazzaville il y a 1 an aujourd'hui sur les États de la région des Grands Lacs. Les chefs d'État de cette région sont conscients de ce que les phénomènes de violence et de terrorisme qui assaillent un certain nombre de pays de cette zone, dont la République démocratique du Congo, ne peuvent être combattus par les seuls pays eux-mêmes. Les problèmes auxquels la RDC est confronté ne sont pas des problèmes d'essence RDC. Il y a des pays voisins qui contribuent à l'exacerbation de la crise ici et au cours des différentes réunions que nous avons, on essaie de rappeler chaque État à ses responsabilités parce que le règlement des questions de sécurité en RDC a forcément un impact sur les autres États voisins, sur les autres États de la sous-région. Et lorsqu'on ne les règle pas en RDC, on permettra à des difficultés de s'installer au-delà de la République démocratique du Congo. Et la proposition qui a été faite, si je me souviens bien, au cours de ce sommet des chefs d'État des pays de la région des Grands Lacs par le président Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, était de leur dire, à l'exemple des pays d'Afrique de l'Ouest ou de la région du Sahel, il serait bien pour la région d'Afrique centrale de pouvoir mettre en place un dispositif indépendant avec une mutualisation des efforts. Pourquoi pas monter une armée qui serait multinationale avec les composantes de l'ensemble des pays de la région et puis mobiliser des financements conséquents. Je pense que les pays de cette région ont du reste même plus de moyens que ceux de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est quelque chose que l'Union africaine a conseillé et on sera derrière donc la communauté des États des Grands Lacs, derrière la SADC, pour voir dans quelle mesure on peut avoir des synergies positives entre le système de sécurité continentale et le système de sécurité régional que nous voulons voir aussi efficient, aussi efficace pour pouvoir soustraire de cette région des Grands Lacs les problèmes auxquels ces pays sont aujourd'hui confrontés.
Monsieur l'ambassadeur, malheureusement, il nous reste très peu de temps pour terminer notre entretien. Plusieurs observateurs traitent l'Union africaine de club de dictateurs qui ne veulent pas l'alternance, qui se protègent les uns les autres au détriment de leur population. Est-ce que vous pensez que cela est justifié brièvement?
Mais vous pensez très certainement que je ne peux pas partager ce point de vue. Les chefs d'État africains sont des chefs d'État responsable. Si vous assistez au sommet de l'Union africaine, vous le comprendrez. Et aujourd'hui, ne serait-ce que l'ambitieuse réforme qui est conduite par le président du Rwanda, le président Paul Kagame, sur la réforme de l'Union africaine, sur le financement de l'Union africaine, sur l'efficacité de l'Union africaine. Vous voyez qu'au dernier sommet, vous voyez toutes les mesures hardies qui ont été prises, qui vont de la création de la zone de libre-échange continentale à l'ouverture du ciel africain, à la lutte contre le phénomène de migration, à la question de l'environnement et de la lutte contre la famine, pour ne citer que ces réformes, témoignent de ce que l'Union africaine, grâce à l'engagement des chefs d'État est en train de passer d'une Union africaine des États vers une Union africaine des peuples, avec dans quelques années la possibilité pour l'Union africaine de se financer, de se prendre en charge de façon autonome, avec la possibilité de mettre en place un fonds d'intervention pour le financement des projets fédérateurs. Donc je pense que la dynamique aujourd'hui qui est engagée au niveau de l'Union africaine, c'est une dynamique vertueuse. Il est vrai que beaucoup de personnes, parce que certainement elles ne sont pas informées de tout ce qui est en train de se faire de positif sur notre continent, continuent à avancer le genre de propos que vous avez dit. Mais je peux vous dire que nous avons de bonnes raisons de croire en notre continent, de faire confiance au leadership de notre continent, de façon à ce que nous puissions rivaliser d'égal à égal avec les autres continents qui, eux, également leurs insuffisances. Mais bon, nous sommes devenus une sorte de vitrine où une certaine presse internationale ne fait que médiatiser là où nous avons des insuffisances, mais jamais là où nous avons des succès francs.
Alors, pour terminer cette émission, monsieur l'ambassadeur, un mot à tous les Africains qui vous suivent à travers les ondes Radio Okapi, sur le net, les réseaux sociaux et par d'autres moyens, et particulièrement aux Congolais qui vous suivent, qui aimeraient entendre un message d'encouragement de la part de l'Union africaine.
Le message que je leur dis, c'est que nous sommes un continent d'avenir. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'un slogan. l'Afrique est le plus grand vivier de jeunes. Quand vous considérez simplement la République démocratique du Congo, plus de 60% de la population a moins de 25 ans. C'est un trésor. Avec, par exemple, la création de la zone de libre-échange continental, nous avons le deuxième plus grand marché économique qui est créé depuis la création de l'OMC.
Faut-il encore que cela se concrétise?
Ça va se concrétiser. On va bénéficier d'un marché de 1,5 milliard de personnes. En termes de perspective, en 2050, on sera 2,5 milliards de personnes. L'Afrique aura 26% de la population active de la planète. On va avoir un PIB de 2 500 milliards de dollars pour le continent africain. Donc, je pense qu'avec ces perspectives, déjà que nous sommes le creuset en termes de ressources naturelles, donc que ce soit le pétrole, que ce soit des métaux précieux, comme ici en République démocratique du Congo, où dans les 40 ans à venir, il faut le dire, la RDC va devenir pour le monde automobile ce qu'est l'Arabie Saoudite à ce monde aujourd'hui. Imaginez quelles sont les opportunités qui peuvent s'offrir uniquement à ce géant central de l'Afrique. Et comme vous le savez, la locomotive congolaise, le jour où elle va utiliser l'ensemble de son potentiel, c'est une locomotive qui est capable non pas de prendre en charge la République démocratique du Congo seule, mais l'ensemble de notre continent.
Et donc le peuple congolais doit espérer et croire en l'Union africaine.
Absolument. La dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas la dynamique du pessimisme. Nous sommes un continent de jeunesse. Nous sommes un continent d'avenir. Nous sommes, comme la République démocratique du Congo, un pays béni. Donc, que nous ayons des difficultés à un moment de notre ascension vers ce progrès-là, je ne saurais le contester, c'est une réalité. Mais construisons sur des valeurs positives plutôt que de rester dans la raque de l'histoire en train de nous morfondre et de nous plaindre. Les valeurs positives sont là et moi je préfère demander à la population congolaise en particulier et aux populations africaines en général de croire sur ce qui est positif, sur ce qui est porteur. C'est la richesse de notre population, c'est la richesse de notre sous-sol et c'est les perspectives qui s'offrent à notre continent pour devenir, dans une perspective plus ou moins proche, un continent qui sera capable de se prendre en charge et de donner l'exemple à d'autres régions du monde.
Monsieur l'ambassadeur Abdou Abari, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en RDC, merci d'avoir reçu grande interview chez vous.
Merci à vous, merci à Radio Okapi et je profite pour dire merci également à ma sœur Leila Zerougui qui a permis ce partenariat fécond entre son bureau et le mien. Merci encore.
Grande interview, c'est terminé pour aujourd'hui. Présentation Alain Romouchinge, coordination, supervision Tina Salama, réalisation Michel Kiffin-Dangoy. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.